Bonjour à tous, bonjour Frédéric Sabourin.
Bonjour.
Merci d'être à mes côtés en tant que journaliste de Maxentre. Alors, dans une actualité sociale tendue, notre invité est Éric Chauvet, président du Céser Centre Val-de-Loire, conseil économique, social et environnemental. Vous étiez en séance plénière ce lundi pour parler du budget 2019 de la région, du SRADET, schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, ainsi que de la carte des formations de l'apprentissage, autant de sujets que nous allons évoquer dans cette émission. Éric Chauvet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous avez tenu lundi après-midi à évoquer la situation justement sociale de la France avec notamment ce mouvement des Gilets jaunes dont on parle tant. Et vous avez tenu un débat d'actualité lundi après-midi, ce n'était pas prévu, pour permettre à la société civile de s'exprimer sur ce sujet. Une façon de revenir également à l'une des missions premières du Céser, hein, puisque votre mission, c'est de représenter la diversité de la société civile à travers votre organisation interne.
Oui, tout à fait. Je pense que incontestablement, le Céser, qui regroupe, comme vous le rappelez, des associations, des syndicats et des organisations patronales qui représentent la société civile organisée étaient évidemment interpellés par le mouvement des Gilets jaunes sur deux aspects. D'une part, sur le fond de leurs revendications, qui est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, nous, au Céser. Et puis sur le fait aussi que ce mouvement est spontané, qu'il contourne effectivement les corps intermédiaires de la société et que dès lors, on est bien évidemment nous concerner par ce qui se passe. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité organiser ce débat dans l'après-midi, en dehors des sujets, en plus des sujets que vous avez évoqués, qui eux-mêmes d'ailleurs tous répondent plus ou moins à un certain nombre de questions. C'est pour ça que j'ai souhaité organiser ce débat au sein du Céser.
Qu'en est-il sorti ?
Alors il en est sorti d'abord l'accord, ce qui n'est pas évident au départ, l'accord que le Céser allait s'engager dans la concertation, comme nous le demande d'ailleurs le gouvernement, puisque nous avons été cités dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Donc, je crois que c'était nécessaire qu'il y ait une motion. Il y a une motion qui a été votée, qui a été largement adoptée et qui permet clairement au Céser de s'engager dans la conversation. Donc, dans la concertation, pardon.
Et donc, conversation aussi.
La conversation aussi, puisque il y a beaucoup de problèmes, effectivement, de dialogue en ce moment. Et donc maintenant, le Céser va pouvoir s'engager aux côtés des autres Césers, d'ailleurs, de toute la France et d'outre-mer, et aux côtés du CESE, de la Commission nationale du débat public, autant d'organismes qui vont travailler.
Vous l'avez rappelé, le Céser, c'est un rassemblement d'associations, de corps intermédiaires, enfin de syndicats, oui, d'organisations patronales, etc. Des corps intermédiaires, donc.
Tout à fait.
Il n'aura échappé à pas grand monde et à vous non plus. Je vous vois sourire, l'auditeur ne le voit pas, mais vous sentez la question venir. Les corps intermédiaires, depuis un an et demi, c'est-à-dire depuis l'élection d'Emmanuel Macron, sont quand même pas très très bien en vue, voire parfois piétinés, ou en tout cas saute-mouton. Est-ce que vous pensez que vous, Céser, Centre Val-de-Loire, avec vos confrères de partout en France, vous allez être entendu, écouté? Qu'est-ce qu'il faut utiliser maintenant comme verbe?
Je pense, j'espère qu'on va être entendu, écouté. Mais alors, plus que nous encore, parce que nous organisons en fait la concertation des corps intermédiaires, plus que nous encore, ce sont les corps intermédiaires qui doivent être écoutés, plus qu'ils ne l'ont été. Il faut bien comprendre que le processus qui effectivement s'est mis en place depuis 2017 avec une vague, on l'a appelée la vague du dégagisme en fait, avec une relation directe, hein, extrêmement proche en fait,
hein,
entre les Français, le nouveau président et les députés. En fait, toute cette relation directe en fait a été bousculée, a bousculé les codes et le gouvernement durant ces 12 mois a certes consulté les corps intermédiaires parce qu'il est obligé par un certain nombre de textes, mais il ne les a pas associés à la décision comme on le faisait auparavant, ou du moins beaucoup moins. Et donc du coup, on a connu un certain nombre de textes, et puis même une position des syndicats patronaux, voire des associations, qui ne comprenaient pas en fait ce qui se passait et qui avaient l'impression d'être un peu mis sur le côté. Très clairement, c'est une nouvelle étape qui doit s'ouvrir, et on a senti quand même, depuis une réunion notamment autour du président à l'Élysée, qu'il y avait un changement sur cette façon de faire.
Donc vous, vous diriez que vous l'avez senti monter, cette grogne justement des citoyens de la base, sans bien sûr, j'imagine, vous ne pouviez pas imaginer les gilets jaunes et leur ampleur,
non,
mais
sûr,
est-ce que vous avez senti, vous, monter cette colère?
Les gilets jaunes qui par ailleurs s'affranchissent allègrement des corps
bien
intermédiaires.
Bien sûr. Et bon, nous essayons de nouer des contacts, on y reviendra si vous le voulez. Mais en fait, alors dire qu'on a senti après, c'est toujours facile, hein, mais en fait, au final, non, on n'a pas senti monter cette colère, la façon, et surtout en fait c'est la violence en fait de la colère, hein, qui s'est exprimée, donc avec beaucoup de désespérance. Et là on a senti que effectivement il y avait quand même une fraction de la population qui se sent pas bien, qui visiblement a des difficultés dans notre nouvel environnement et hyper mondialisé, connecté et qui...
Urbanisé,
effectivement. Et il y a un certain nombre de nos concitoyens qui sont mis de côté. Pas forcément d'ailleurs ceux qui ne travaillent pas. Généralement, ce sont des gens en plus qui travaillent.
Oui. Et qui n'arrivent pas à vivre de leurs revenus.
Il y avait aussi, moi je me souviens des discussions au moment de la fixation, vous savez, du seuil en dessous duquel la CSG allait être augmentée à l'Assemblée nationale
notamment.
Pour les retraités, il y avait quand même beaucoup de voix pour s'élever, pour dire le seuil à 1 200 € était trop bas. Et donc nous-mêmes, nous avions étudié, nous avons sorti un rapport au Césaire en 2016, c'est pas si vieux que ça, sur la pauvreté en région. Nous avions calculé dans ce rapport que le minimum pour vivre aujourd'hui, suivant les canons de la société actuelle, c'était 1 200 € par mois. Donc on n'est vraiment pas sur des seuils très élevés. Et là, beaucoup avaient positionné une alerte sur ce sujet-là en disant vous êtes beaucoup trop bas. Enfin, c'est en décalage avec la réalité. Et on l'a bien vu, en fait, hein, les sommes qui étaient proposées à l'époque, c'était 1 500. Et en fait, au final, on finit à 2 000 aujourd'hui. Donc il y avait des éléments quand même.
D'alerte
qui n'ont pas été prises en compte, c'est dommage. Ça aurait pu éviter une période extrêmement troublée qu'on a connue ces derniers temps.
Alors maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez auditionner les gilets jaunes de
la région? Voilà, on essaie d'élaborer déjà. Alors chaque Césaire, évidemment, est indépendant et décide dans sa région des actions qu'il a en entreprendre. Mais nous avons rencontré, j'ai fait partie de la délégation des Césaires de France qui ont rencontré Chantal Joanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public, de façon à voir de quelle façon on pouvait coordonner nos efforts. Et puis, nous allons recevoir, j'ai eu hier au téléphone Vanick Berberian, le président des maires ruraux, et nous allons avoir un échange début janvier entre les Césaires et les maires ruraux pour voir un peu aussi, puisque ce sont les premiers réceptacles notamment des cahiers de doléances des gilets jaunes, et nous allons voir comment nous allons pouvoir organiser la concertation. Et puis j'ai demandé, lors de cette séance plénière du Césaire que vous évoquiez en début d'interview, j'ai demandé aux conseillers du Césaire d'aller sur le terrain, d'aller prendre les contacts en direct avec les gilets jaunes. Et par rapport à la question de ne pas être récupéré, de la volonté des gilets jaunes de ne devrait pas être récupéré, eh bien en fait on s'aperçoit que lorsqu'on se présente Césaire, c'est-à-dire collectif, nous sommes un collectif, c'est une étiquette qui passe beaucoup mieux parce que on peut pas être soupçonné de récupération.
Les gilets jaunes vous connaissent, Césaire?
Non, bien sûr que non.
Ouais, voilà.
Bonjour,
on est du Césaire.
Oui, ça c'est juste.
Le quoi?
Voilà, il y a pas suffisamment de
c'est
monde.
C'est pas, excusez-moi, hein, c'est pas vous faire injure, mais
non,
c'est vrai
pas
que
du tout,
voilà,
pas du tout.
Des choses,
mais ça fait partie justement. Ça fait partie justement des choses qui. C'est quand même incroyable. La République, notre démocratie, s'est dotée d'un certain nombre d'outils, justement pour travailler ces questions-là, pour remonter la difficulté. Et on le voit, les gilets jaunes, ils y sont confrontés. Cette difficulté, c'est quoi? C'est comment on part d'une parole individuelle ou d'un intérêt catégoriel et comment on en construit un intérêt collectif, une proposition qui rassemble le plus grand nombre. C'est ce que nous faisons tous les jours, nous, au Césaire, mais pas que nous, dans les conseils de développement, voire même dans des conseils de quartier. Nous avons un certain nombre d'outils que la loi a prévu, que la démocratie a prévu et que nous, on n'utilise pas, ou du moins pas suffisamment, pour résoudre nos problèmes. C'est un peu dommage.
Vous souhaitez réécouter une émission? Connaître la programmation à venir? Rendez-vous sur rcf.fr. RCF.fr, c'est tout RCF en ligne.
Vous écoutez Agora sur RCF Loiret en partenariat avec Maxentre. Notre invité est aujourd'hui Éric Chevet, président du Césaire Centre Val-de-Loire, conseil économique, social et environnemental de la région Centre. Alors on voit que les revendications des Gilets jaunes, la hausse sur le taxe carburant, maintenant elle paraît très lointaine. Et aujourd'hui on voit qu'il y a des demandes de représentation démocratique avec ce fameux RIC, ce référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que c'est un sujet dont vous pourriez vous emparer, vous, au Césaire ? Alors,
non seulement on peut s'en emparer, mais on s'en est déjà emparé, puisque à la demande du président Bonneau, président de région, nous nous sommes saisis de ce sujet qui était celui de la démocratie permanente, c'est-à-dire en fait comment on fait correspondre une démocratie représentative et une démocratie participative dans une démocratie permanente. Nous avons rendu un rapport dans le courant de l'année 2017 sur ce sujet. Donc évidemment, la question du lien perpétuel en fait entre le citoyen et le décideur, c'est une question que nous abordons, nous, sans arrêt, dans nos travaux. C'est une question essentielle.
Mais sur ce RIC, le François Bonneau est assez sceptique quand même.
Oui, alors effectivement, parce que très clairement, je trouve que les seuils qui sont fixés au niveau national sont inaccessibles. 185 députés sénateurs, 4,5 millions d'électeurs, ce sont des seuils. Bon, si on ne veut pas l'utiliser, on fait ça, quoi, grosso modo. Mmh. Donc, je pense qu'il faut revoir un petit peu ces seuils. Il faut aussi faire attention aux sujets qui sont traités, très clairement. Il y a un certain nombre de sujets qui ne peuvent pas être soumis comme ça, sans un certain nombre de filtres, à une question référendaire.
On pense à la peine de mort, par exemple.
Mais oui, on va voir ressurgir des choses.
Oui, bien sûr, mais tous les sujets qui tiennent aux droits de l'homme, en fait, hein, sont des sujets qui méritent en fait une discussion, un mûrissement dans la société, et qu'on ne peut pas traiter comme ça par des questions aussi rapides qu'un oui-non. Et donc, je pense qu'il faut être prudent sur le champ, effectivement, d'application de ce type de décision.
Et puis la société civile, elle s'est invitée hier matin dans l'hémicycle, hein, avec des banderoles contre la subvention accordée à l'aéroport de Tours, hein, avec l'action non-violente COP21 du collectif Il est encore temps. Alors on avait posé la question justement à François Bonneau sur ses aides à l'aéroport de Tours. On écoute tout de suite sa réponse.
Je leur réponds que la protection de notre planète impose en effet qu'on mette en complémentarité les différents modes de déplacement, qu'il faut limiter les modes de déplacement qui sont des modes de déplacement de courte et moyenne distance par l'avion, parce que ça consomme beaucoup et ça apporte pas un plus considérable par rapport au train. Donc complètement d'accord. Après, vous avez quand même le Val-de-Loire. Je suis en train de propulser le Val-de-Loire avec les 500 ans de la Renaissance. Ça marche bien, il y a un grand intérêt régional, national, mais aussi international. Comment imaginer qu'on puisse avoir des visiteurs qui viennent de toute l'Europe, d'Amérique, des visiteurs qui viennent d'Asie, vers quelque chose qui constitue une part importante de notre patrimoine culturel, si nous n'avons pas de moyens de transport? Aujourd'hui, concrètement, on a 200 000 passagers à l'année. C'est pas possible de porter le développement d'une région, d'un territoire tourné vers le tourisme, sans qu'il y ait parmi les moyens de déplacement, et à sa place, pas à la place des autres moyens de déplacement, l'aéroport et l'avion. Donc c'est une articulation intelligente, mesurée, parce que c'est vrai que ça consomme beaucoup pour le moment. Espérons qu'on trouve des systèmes alternatifs. Ils n'existent pas aujourd'hui. Donc une place mesurée du développement aérien.
Voilà pour cette réaction de François Bonneau. On voit que c'est difficile de tenir les deux bouts de l'économique et de la transition écologique.
Alors, deux types de réponses. D'une part, il est clair qu'on a besoin de changer de modèle. Je crois que c'est un peu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes montre d'ailleurs que si on ne change pas de modèle, on ne répondra pas correctement aux problématiques, notamment à la problématique du changement climatique. Très clairement, on a vu qu'une augmentation de taxes, c'est-à-dire en fait on est dans le même modèle, mais on fait varier les curseurs et on dit c'est pour lutter contre le changement climatique. Ça ne marche pas, parce que quelque part, ça crée des difficultés. Et si on n'a pas changé le modèle dans lequel on réfléchit, dans lequel on travaille, dans lequel on prélève des impôts, eh bien, bien sûr, on se retrouve confronté à une réalité qui est insupportable pour un certain nombre de nos concitoyens. C'est la problématique écologique.
D'autant que le kérosène n'est pas taxé.
Oui, alors en plus, moi, je...
Ça fait partie des revendications, des choses qui mettent en colère beaucoup de gens. Pourquoi on nous taxerait, nous, avec notre petite voiture pour aller bosser et les grands pétroliers et le kérosène n'est pas taxé?
C'est pour ça qu'il est très important d'introduire dans la concertation, et c'est fait d'ailleurs, la question de la fiscalité, de l'évolution de la fiscalité, de la lisibilité de la fiscalité et de sa relation avec la prise de décision. Donc ça, c'est un point intéressant. Maintenant, j'en viens sur le sujet de l'aéroport lui-même. Très clairement, l'aéroport de Tours et les aéroports en région, parce que je crois que la décision de Notre-Dame-des-Landes, de ne pas faire Notre-Dame-des-Landes, effectivement, a des conséquences sur la problématique aéroportuaire en région, très clairement. Et un certain nombre d'études ont été lancées. Il y a évidemment sur Tours une étude qui est pilotée, je crois, par la préfète d'Indre-et-Loire. Il y a sur l'Eure-et-Loire, avec la désaffection de la base de Châteaudun, aussi une étude sur l'aéroport de Châteaudun, et qui était un aéroport militaire. Et puis, il y a la problématique de Châteauroux, où on a là un outil extrêmement important pour l'économie du sud de notre région. Et donc, il y a nécessité, de notre point de vue, d'une vue globale, en fait, à la fois sur le voyageur, mais aussi sur le fret et sur un certain nombre aussi de desserrements de la région parisienne. Donc je crois qu'il faut avoir une vision globale de cette problématique aéroportuaire. Et puisque des études sont en cours, reportons au moins les décisions à l'arrivée de ces études qui devraient normalement sortir pour la fin de l'année. Le deuxième point, alors là, et là c'est ma casquette de chef d'entreprise, c'est de dire que moi je veux bien que tous les modèles économiques existent, mais je souhaite que le modèle économique du transport aérien se suffise à lui-même et qu'il n'y ait pas besoin de mettre de l'argent public dans le financement des places du transport aérien. Tout comme j'aimerais que ce ne soit pas le cas sur d'autres modèles. Très clairement, ça pose un problème.
Oui, on sait bien que ce n'est pas comme ça que les touristes vont venir par avion en région Centre-Val-de-Loire. Enfin, les billets ne seront pas à des prix que tout le monde pourra se payer, etc. Enfin,
bien sûr, et donc aujourd'hui...
C'est comme on met de l'argent public dans les TER. Pourquoi Mais à ce moment-là, si on n'en met plus, les abonnements doublent ou triplent.
C'est vrai.
Il y a plus grand monde qui va prendre le train. Hein.
C'est vrai que ça pose effectivement cette question-là. Alors le président Bonneau a raison de dire que la question de la distance à parcourir est effectivement un critère essentiel. Mais quand on veut voyager dans des pays assez éloignés, eh bien on assume le prix du billet, le prix du transport, etc. Et c'est pas à la puissance publique de cofinancer le prix du billet.
RCF Loiret à Montargis. Sur le 90.3.
C'est toujours Agora sur RCF Loiret en partenariat avec Maxentre et nous parlons de l'actualité économique, sociale et environnementale de notre région avec notre invité Éric Chevet, président du Césaire Centre Val-de-Loire, conseil économique, social et environnemental. Alors on va dire un mot maintenant du SRADDET, ce fameux schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Il va être voté seulement dans un an, mais il est en discussion cette semaine au Césaire et à la région. Un schéma d'aménagement régional du territoire, là aussi, ça paraît loin des préoccupations des citoyens et pourtant, ça les concerne.
Oui, ça les concerne et le SRADDET, c'est pour les réponses à moyen terme, moyen et long terme.
C'est 2050, en fait, c'est ça à peu près l'horizon?
Non, l'horizon de long terme, c'est effectivement 2050. L'horizon de moyen terme, c'est 2030, en fait.
Hein.
Et c'est demain, d'ailleurs, hein, puisqu'en fait, un certain nombre de mesures qui sont à l'intérieur s'appliqueront pour 2025. En fait, donc on est quand même sur quelque chose d'assez proche. Au départ, c'est un document d'aménagement du territoire, c'est-à-dire une planification de l'organisation du territoire tel qu'on pourrait l'imaginer pour les 10 ou 15 prochaines années. Et puis le président Bonneau a souhaité en fait en faire non pas seulement un document d'aménagement du territoire, mais d'avoir une ouverture à 360 degrés et d'intégrer l'ensemble des domaines qui concernent la vie des citoyens dans notre région, et du coup d'en faire non pas un instrument d'aménagement du territoire, mais un projet de territoire qui concerne l'université, qui concerne la santé, qui concerne la mobilité, toutes les questions qui relèvent du collectif en région. Et donc, à partir de ce moment-là, un certain nombre des dispositions qui sont prises à l'intérieur sont évidemment en lien direct avec l'actualité. Alors j'évoquais tout à l'heure la question environnementale, puisqu'on est quand même sur la question de l'économie en fait de la planète, pour utiliser un raccourci. Et préoccupation d'un tel schéma, c'est la maîtrise du foncier, par exemple. Donc effectivement, si on se dit bah, on maîtrise le foncier, ça veut dire qu'on arrête l'étalement urbain. Donc ça veut dire qu'on ramène les gens plus près des centres, on limite les mobilités par ce fait. Et vous savez qu'en Centre-Val de Loire, il y a une donnée, je crois qu'en une dizaine d'années ou une quinzaine d'années pour être un peu plus exact, la distance moyenne domicile-travail a augmenté de 1,7 km et on approche les 15 km.
En distance moyenne.
D'accord. Ce qui veut dire, voilà, donc c'est à la fois...
Certains sont très près et voilà, d'autres sont moyennement loin. Voilà, à partir de 30-40 km, ça commence à faire.
Absolument. Et donc, du coup, le phénomène, effectivement, qui est très français, d'avoir la maison pavillon avec le bout de jardin, fait qu'on s'éloigne de plus en plus parce que les prix, la pression immobilière est là, la pression foncière, et donc on s'éloigne de plus en plus et on connaît ce phénomène-là, les gens s'installant loin, après ça fait deux voitures, ça fait etc. Et on arrive à une pression fiscale par l'intermédiaire du prix du carburant, par exemple, qui devient insupportable. Donc oui, c'est un vrai problème, ça.
J'entends bien, Éric Chevet, mais là, on voit, par exemple, que la France n'a pas tenu les engagements de la COP21 qui s'est pourtant tenue à Paris. Donc c'est un changement rapide et radical qu'il faudrait avoir aujourd'hui. Or, nos concitoyens n'ont pas l'air de vouloir le faire. Comment on fait quand on est responsable politique ou responsable d'un Césaire?
Je pense que... Alors, il y a des réponses de court terme. Bon, les réponses de court terme, c'est celles du gouvernement qui ont été votées cette nuit et qui sont celles de la loi de finances. Et puis, d'autres mesures qui peuvent être prises par les conseils régionaux dans le cadre de leurs compétences, notamment sur la mobilité, j'imagine. Mais et les réponses de moyen terme, je crois qu'il faut les inscrire dans une perspective un peu plus longue. Il faudra... Prenez par exemple, je vais vous citer un exemple, c'est quand même assez extraordinaire. Pour financer la région, la région perçoit une partie de la fameuse TICPE, la taxe intérieure, c'est les produits de consommation énergétique.
C'est sur l'essence.
Sur l'essence. Sur les
carburants.
Et donc, ça veut dire que la région qui a en premier chef les politiques environnementales de lutte contre l'environnement et donc de diminution de ces consommations-là, si elle diminue ses consommations, elle diminue ses ressources fiscales. Mmh.
C'est 30 millions d'euros que ça rapporte à la région chaque année.
Hein. Vous voyez,
donc, il y a 30 millions d'euros.
Vous voyez la contradiction. TICPE. Donc, évidemment qu'il faut sortir de ces contradictions. C'est ce que nous allons mettre, nous, Césaire, sur la table, notamment sur le volet fiscal du grand débat, puisque c'est complètement aberrant de dire à quelqu'un, écoute, fais des efforts dans ce sens-là, du coup, tu auras moins d'argent.
D'autant que l'État demande aux régions de limiter hausse de leurs dépenses à 1,2%.
Alors ça, c'est effectivement, mais ça, c'est un problème des déficits. Oui.
Vous avez dit hier, Éric Chevet, pendant les débats de la présentation du budget au Conseil régional, vous avez parlé du SRADET, des propositions que vous faisiez, vous, Césaire, qui étaient certaines reprises sur la biodiversité, entre autres. Vous avez parlé du problème de la diffusion de ce document, un document à 360 degrés, je vous cite, nécessite que ce document aille jusqu'à l'ensemble de la population, comme on est en train de parler à des auditeurs qui viennent de partout, ça tombe bien. On a probablement un document un peu techno, je vous cite encore, imaginez qu'on puisse avoir une transcription vue par un étudiant ou un chef d'entreprise, en gros Madame Michu, quoi, qu'est-ce que je comprends du SRADET, pourrait permettre une meilleure diffusion. C'est ça peut-être aussi un peu la clé du problème, c'est que les gens trouvent que les choses sont éloignées, ça leur parle pas, etc. Mais parce qu'on utilise aussi un langage à vocabulaire, SRADET, je vais
Absolument.
Vous dire, SRADET, c'est pas très glamour.
Non, c'est pas très glamour.
Alors, comment est-ce que vous arrivez à faire passer cette idée-là, qui, pardon de le dire comme ça, mais c'est plutôt une bonne idée d'arriver à faire dire ça par quelqu'un de la base.
Oui, absolument. Donc c'est pour ça effectivement que j'ai proposé ça, parce que je crois que là, effectivement, la concertation pour élaborer ce projet régional a été très large. Mais on en voit, quand on regarde le détail de cette concertation, on voit que ce sont quand même des techniciens.
Bah oui, 3700 personnes sur l'ensemble de la population de la région, c'est pas non plus très très large.
Et la participation en fait en direct du citoyen, c'est une centaine de participations envoyées sur le site, etc. Donc on voit qu'on a un problème en fait. entre un certain nombre, enfin ceux qui décident des orientations de demain et la base. Donc je crois que c'est un souci. Alors nous, corps intermédiaire réunis au Césaire, nous avons une responsabilité forte pour faire vivre à l'intérieur de nos structures, redescendre en fait ces informations. Mais la proposition que j'ai faite, effectivement, c'est d'imaginer que on puisse avoir une lecture vulgarisée en fait de ce document, de ce projet régional, par les yeux d'un agriculteur à qui on va pouvoir dire, mais écoutez, voilà, demain il faudra faire de l'agriculture de cette façon-là. Et le SRADET décliné pour vous, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire cette règle-là qui vous sera applicable. Ça veut dire que là, vous avez un champ sur lequel vous devriez regarder, parce qu'en termes d'économie circulaire, il y a des choses intéressantes. Voilà, c'est ça en fait. Et le prendre, même chose pour un chef d'entreprise. Aujourd'hui, fort heureusement, l'économie circulaire se développe. On a de l'écologie territoriale industrielle dans tous les départements. Donc voilà, c'est de montrer par l'intermédiaire d'un étudiant, par exemple, aussi.
Eh bien voilà, il reste encore du pain sur la planche. Merci beaucoup Éric Chevet d'être venu aujourd'hui au micro de RCF Loiret en partenariat avec Maxentre. Merci beaucoup Frédéric Sabourin d'avoir co-animé cette émission.
Merci à vous.
Voilà,
merci.
D'autant que je précise que c'était la dernière fois que vous étiez à ce micro puisque vous nous quittez pour Angoulême.
C'est ça.
Et on vous souhaite bien sûr bon vent. Comme
on est toujours du pays de son enfance et mon enfance c'est la Charente, c'est François Mitterrand qui disait ça, et bien je fais mienne cette citation, toute proportion politique mise à part.
Voilà, et enfin, merci beaucoup à Waïd Selmi pour la réalisation de cette Agora, une émission à retrouver en podcast sur rcf.fr ou sur le site de Maxentre, maxentre.fr. Il me reste à vous souhaiter, chers auditeurs, de très belles fêtes de fin d'année.
Merci, au revoir.